Journée, on a vu ce matin les églises de Galatie. Oui ? Alors, je me suis peut-être mal expliquée. Quand vous reprenez le dossier, vous avez Paul, fondateur d'église, c'est l'intro. Et ensuite, vous avez Paul, fondateur, avec, un, la vocation de Paul, le deuxième document. Est-ce que vous l'avez ? Si, si, si. Vous devez la voir. Qui commence par la vocation de Paul. Non, après l'introduction, celui d'après. Le document d'après. Il y a avant-propos, introduction, et après la vocation de Paul. Vous allez retrouver, vous allez voir. Non, non, mais ça existe. Hein. Ça manquerait dans certains textes. Bon, alors, j'énumère ce que vous avez dans votre dossier pour que tout le monde s'y retrouve. Normalement, sinon vous criez, dans votre dossier, vous avez, il faudra que je change les titres parce que c'est trop toujours pareil, Paul, fondateur d'église, avant-propos et introduction. Vous avez tout ça ? Ça marche. Ensuite, vous avez un Paul, fondateur d'église, Ecclésiaï, 1, la vocation de Paul. C'est celui-là que certains n'ont pas. Il y en a qui manquent ? Bon, alors, on vous le donnera. Donc ça vous manque ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça manque, ça ? Bon, une personne, mais je vais vous l'apporter. Ensuite, vous avez Galates 1 et 2. Ensuite, vous avez le tableau chronologique. Ensuite, vous avez 1 Corinthiens 1, 2, 3. Et ensuite, vous avez 1 Corinthiens 12, 14. Pascal, tu peux apporter un dossier supplémentaire pour qu'on complète là. Alors, ce que je vous disais, c'est que dans le deuxième document que vous n'ouvrez pas maintenant, vous trouvez tous les renseignements, ce que je vais dire maintenant. D'accord ? Que ce que vous avez là, vous ne l'avez pas dans vos documents, c'est le plan de notre fin de matinée et après-midi. Nous avons passé la matinée chez les Galates et nous nous déplaçons à Corinthe. Et on passe l'après-midi à Corinthe. Ça marche ? Voilà. Alors, et moi je commence par vous présenter l'église de Corinthe à laquelle Paul a consacré au moins 2 lettres, en fait certainement plus. Et on sait que c'est certainement plus pour diverses raisons. Pourquoi ça fume ? Oh là ! Oh là, c'est la poussière ? Bon, c'est parce qu'on soulève la poussière. Alors, diverses raisons, Paul dit lui-même, parfois dans ma précédente lettre, et nous n'avons pas cette lettre, donc on sait qu'il y a au moins eu une lettre perdue, antérieure aux nôtres, et d'autre part, il est très clair que nos 2 lettres corinthiens sont formées d'un certain nombre de billets ou de lettres cousues ensemble, soit par Paul lui-même, soit par ses successeurs, lorsqu'ils ont très vite regroupé ces lettres pour en faire un ensemble très vite connu, un des premiers corpus connus des Écritures chrétiennes. Ça va ? Voilà, dont ont témoigné au début du milieu du deuxième siècle. Justin en témoigne, on le sait. Voilà. Alors, avec Corinthe, Paul est arrivé à Corinthe dans son second voyage missionnaire. Et la ville de Corinthe est quand même une ville particulière, où très vite il a eu du succès, et après Corinthe a été une communauté chrétienne qui a quand même pas mal vécu. Clément de Rome écrit à Corinthe à la fin du siècle, et au 3e, 4e siècle, je crois, on a un évêque, Denis de Corinthe, qui était beaucoup plus écouté que l'évêque, d'ailleurs il n'y avait pas d'évêque à Rome à ce moment-là. Voilà, donc Corinthe a eu une réelle histoire chrétienne, très vite, fondée par Paul. Corinthe, c'est une ville qui a son histoire. Elle a été, dans la Grèce antique, une ville qui était le port entre les deux mers, puisqu'elle est à l'entrée du Péloponnèse. Et vous savez qu'on faisait, il y a un isthme qui relie le Péloponnèse au reste de la Grèce, et vous savez qu'on faisait passer les bateaux d'un côté à l'autre par un canal sans eau, qu'on appelait le Diolkos, dans lequel on traînait les bateaux. On tirait les bateaux, des chevaux tiraient les bateaux pour les faire passer d'un côté à l'autre. Donc Corinthe était un port, Et comme tous les ports, Corinthe avait mauvaise réputation. Moi, je suis de Marseille, je sais que les ports ont mauvaise réputation. Bon, ça, on fait aussi mal, très mal ailleurs, mais ce n'est pas grave. Et à l'époque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait même un verbe qui s'appelait Corinthiazein, vivre à la Corinthienne. Et vivre à la Corinthienne, c'est pratiquer une débauche effrénée. Ouais. Corinthe a été rayée de l'histoire, rayée de la carte, à peu près en 144 avant Jésus-Christ, ou en 146, non, 146 avant Jésus-Christ, par les armées romaines qui s'avançaient contre l'Empire hellénistique, les royaumes hellénistiques. Hein, les Romains, la République romaine a avancé, jusqu'à un jour arriver à Jérusalem avec Pompée. Et donc, ils ont pris Corinthe, et Corinthe a été détruite. Et au fond, il n'est plus resté pendant 100 ans que probablement des ruines et puis un village qui végétait. Bon. 100 ans plus tard, en 44 avant Jésus-Christ, avant d'être assassiné, Jules César a proclamé, a installé une légion, des légionnaires à la retraite, installé une armée à la retraite à Corinthe, comme c'est la même chose à Philippe, comme faisaient les généraux et ensuite les empereurs romains. Être à la tête de légions et de troupes auxiliaires, c'est très bien, mais il y a un moment donné où ça devient dangereux en temps de paix. Parce que ces gens-là, qui sont des militaires de métier, ils n'ont plus rien à faire, et très vite, ils font des pronunciamento et ils vous déposent. Donc, on les installait le plus loin possible en leur expliquant que là, ils allaient pouvoir passer. On leur donnait une terre, ils prenaient femmes, des enfants, et on leur expliquait qu'il fallait qu'ils passent tranquillement le reste de leur existence là. Donc, César installe des anciens combattants de ces armées à Corinthe et prononce un acte c'est un acte de réconciliation, en fait ça ressemblerait aujourd'hui à un acte d'amnistie, c'est-à-dire on refonde Corinthe et on invite quiconque veut s'y installer en lui offrant des terres, des moyens de commercer, et en gros ça veut dire en blanchissant le casier judiciaire. Si vous êtes un esclave en fuite, vous avez le droit de vous installer. Si vous êtes un commerçant douteux ou en faillite, vous avez le droit de vous installer. Les soldats, voilà. Ça devient le lieu où on fait venir un maximum de gens pour redonner vie à la ville. À cause de sa situation géographique, ça a très bien marché. Et Corinthe est redevenue très vite une grosse ville commerçante, puisqu'elle elle reste à sa place entre les deux mers. Alors, quant à savoir combien il y avait d'habitants à Corinthe, à l'époque où Paul y arrive, vers 50 ou 49-50 après Jésus-Christ, c'est très variable. Autrefois, on disait 300 000, 500 000. Bon. Aujourd'hui, les historiens ont revu à la baisse, mais c'est certainement plus de